aujourd'hui, donc, c'est donc une participante au séminaire, donc Jean-Marc Royer qui va donc nous faire une exposé, donc durant une heure. Et donc c'était aussi une rencontre heureuse, donc je pense que Jean-Marc il travaille depuis longtemps sur cette question, comme sur la rupture anthropologique qui a été créée par l'apparition du nucléaire, donc on peut dire que c'était un peu ton point de départ, non? Après, on s'est élargi à des questions comme l'eugénisme et à l'origine aussi du racisme nazi. Et donc, il a écrit le manuscrit, les broches du livre, donc justement sur l'érotisation planétaire de la mort ou l'extension universelle de la guerre permanente aux vivants inaugurés à Hiroshima. En plus, Jean-Marc, il a cet avantage d'avoir une formation scientifique ou technique, je dis un avantage parce que la plupart des gens qui sont dans la critique sociale ont souvent plutôt une formation humaniste ou des philosophes, donc il est relativement plus rare de trouver des gens qui ont au moins des compétences critiques aussi dans le domaine technique et scientifique, ce qui évidemment reste quand même indispensable aussi un peu pour démonter l'idéologie scientifique. Il faut quand même avoir certaines compétences scientifiques, c'est un peu le problème. Et donc j'ai trouvé dans la recherche de Jean-Marc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont un véritable rapport avec ce qu'il dit ici dans notre cours, donc surtout sur la naissance du sujet moderne au XIXe siècle, donc sur le rôle de ce qu'on peut appeler le rôle du narcissisme et de la pulsion des morts, et en utilisant en même temps les instruments de la psychoanalyse et les instruments donc, de la critique sociale et de l'histoire du capitalisme. Donc j'ai même trouvé que sur certaines choses, comme par exemple sur l'eugénisme et sur le darwinisme social, il y a parfois on trouve parfois des références qui sont presque mot par mot les mêmes qu'utilise aussi Robert Kurz dans son livre « L'histoire noire du capitalisme », qui n'était pas traduit en français. Donc on voit qu'il y a une véritable convergence dans la recherche. Donc ton exposé, est-ce que tu as mis un titre ?
Oui, on pourrait donner un titre qui s'intitulerait « Les secrets de famille de l'Occident ». C'est en référence directe à la psychanalyse. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai été aussi étonné de voir les convergences. Quand j'ai écouté tous les séminaires qu'avait donné Anselme depuis 2012, j'étais vraiment étonné. Et puis, quand à la péniche, tu as présenté le livre de Robert Kurz, et qu'il parle de la place particulière d'Auschwitz, je me suis dit, je me retrouvais, tu en as dit quelques mots, je me retrouvais complètement là-dedans, totalement. Et en fait, c'est vrai, je dis juste un mot là-dessus, c'est qu'en fait, toute ma recherche, elle est partie de cette interrogation sur la question nucléaire. Parce qu'auparavant, en 2010, j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « La science creusée de l'inhumanité ». Et en travaillant sur cette question de la science, je suis tombé sur le nucléaire de manière, je dirais, non prévue. Je ne l'avais pas prévu. Et ça m'a amené à travailler sur cette question du nucléaire. Et là-dessus est arrivé Fukushima, le 11 mars 2011. Comme pour beaucoup de gens, ça a changé ma vie. Je me souviendrai encore longtemps que pendant les 3 premières semaines après Fukushima, je travaillais 15 heures par jour. Et au bout de 3 semaines, moi je suis couvreur de fond, j'ai une certaine endurance. Au bout de 3 semaines, je me suis écroulé. Parce que à la fois physiquement, mentalement, c'était extrêmement dur. Comment en est-on arrivé là ? Parce que dans cette réflexion, j'ai fait immédiatement la comparaison avec l'événement qui avait marqué l'année 1945, c'est-à-dire Auschwitz, dont personne ne conteste aujourd'hui le crime contre l'humanité. Or, la question nucléaire m'est apparue aussi très rapidement comme un crime contre l'humanité, avec des spécificités. Ce n'est pas du tout la même chose, Auschwitz et Hiroshima, bien sûr, mais c'est aussi un crime contre l'humanité, et en plus, pour Hiroshima, un écocide. Donc, ça m'a obligé, en fait, à remonter dans l'histoire et à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais là-dessus, les lectures de André Pichot, les lectures de Zygmunt Bauman sur Modernité et Holocauste, ou la lecture de Olivieré, Itinéraire de l'égarement sur la question scientifique, m'ont beaucoup aidé et m'ont ouvert les yeux. Et j'en suis en fait arrivé à formuler un certain nombre d'hypothèses de travail qui sont les suivantes. Comme l'a expliqué Armel Campagne le samedi, là, il a bien expliqué que, par exemple, en France, le capitalisme s'installe vraiment à partir de la moitié du 19e siècle. Et j'ai bien aimé son exposé parce qu'il montre que pour que le marché et l'industrie et la marchandise s'installent, il faut qu'il y ait une défragmentation de ces marchés. Et c'est les institutions étatiques qui font ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que le capitalisme s'installe, mais en profondeur, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais ce qui se passe exactement à ce moment-là, c'est que le mode de connaissance scientifique, j'aime pas ce mot de science, j'emploie toujours le terme mode de connaissance scientifique, s'installe exactement au même moment. Et au même moment, s'installent aussi les États-nations modernes. Donc, en fait, tout ça, ça vient de ce qu'on appelle ordinairement, fin du XVIIIe siècle, les trois révolutions, c'est-à-dire révolution politique, révolution industrielle et révolution scientifique. Sauf que ça ne se passe pas dans l'immédiat comme ça, que ça met un peu de temps à s'installer, et que c'est vraiment installé. Je vais parler surtout de la France. L'Angleterre, ça se fait un peu avant. L'Allemagne, c'est un peu différent. Ça se fait un petit peu après, mais très vite. Il y a un rattrapage qui se fait, qui fait que tout ce que les autres pays mettent un siècle et demi à faire, en Allemagne, c'est 60 ans, quoi. Ça va très très vite. Et donc, encore une fois, je focalise un peu sur la France, ça s'installe entre 1850 et 1900, ces trois choses-là. C'est-à-dire, le mode de connaissance scientifique, il se cristallise. Je donne juste un ou deux exemples. C'est que l'expérimentation à travers Lavoisier est accepté, le mode de validation des hypothèses scientifiques par l'expérimentation est validé. Ensuite, de quoi, vers les années 1850 aussi, s'établissent des congrès internationaux qui vont avoir pour rôle d'officialiser et de crédibiliser et de légitimer les hypothèses scientifiques avancées dans ce champ-là. Donc, ce que je dis d'habitude, c'est que les axiomes et les postulats de ce mode de connaissance scientifique moderne qui commence à être mis en place au XVIIe siècle, mais pas seulement avec Galilée, hein, avec Tycho Brahe, avec Giordano Bruno, avec Kepler, etc. Ça met un siècle et demi à se cristalliser avec Newton, etc. Et bien sûr Descartes du côté philosophique, mais ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à 1850, c'est qu'il y a une véritable cristallisation de ce mode de connaissance du côté du corpus, ce qu'on appelle le corpus lui-même, du côté de la méthode et du côté de la validation. Donc à partir du moment où ces trois champs-là commencent à être fixés, on peut dire, et d'ailleurs c'est le sujet de... ce sujet d'une thèse qui vient d'être sortie à l'échappée par Carnino, qui s'appelle « L'invention de la science entre 1850 et 1900 ». Donc il y a ce phénomène-là, et en même temps, il y a le capitalisme que Alain Gras appelle « thermo-industriel », parce qu'il montre qu'à peu près dans les années 1850 aussi, le charbon commence à être la première source d'énergie dans les usines. C'est-à-dire qu'elle devance l'énergie hydraulique, animale, éolienne, etc. Les courbes se croisent, si vous voulez. Les énergies qu'on appelle aujourd'hui renouvelables décroissent, tandis que l'utilisation du charbon croît. Et c'est à ce moment-là, à peu près aux alentours de 1850, que ça se passe. Et donc, Alain Gras, dans son livre « Le choix du feu », dit « ça devient une thermo-industrie ». Bon, alors bien sûr que c'était utilisé auparavant en Angleterre, ça a commencé dans les mines, etc., etc. Ce qui fait aussi qu'il y a une accumulation du capital avant 1850, en Europe, c'est par exemple le chemin de fer et la marine à vapeur. Là. Bon, mais c'est à ce moment-là que ça se passe. Et troisième chose, c'est la constitution des États modernes, des États-nations modernes, se fait aussi à ce moment-là, par exemple à travers les récits, à travers l'école obligatoire, à travers les institutions. Et bien sûr que là aussi, ça a commencé avant. Par exemple, on pourrait dire que l'hygiénisme, c'est déjà une espèce de concaténation de ces trois domaines, c'est-à-dire le domaine scientifique, le domaine politique et le domaine industriel. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à partir de 1850, on peut parler d'une triple alliance. J'emprunte ce concept à Pap Ndiaye, qu'il l'a employé à propos du Manhattan Project. Je l'image comme ça. Il y a une triple alliance qui se fait en même temps, à ce moment-là, entre le mode de connaissance scientifique. Pourquoi j'emploie le mode de connaissance scientifique ? Parce que, justement, à partir du moment où ça s'établit, ça éradique tous les savoirs. En même temps que le capitalisme s'installe, en même temps que les États s'installent, ça a des conséquences jusqu'au creux même de la vie de chaque individu. Et tous les savoirs, essentiellement vernaculaires, paysans, etc., sont rapidement battu en brèche sous le drapeau du progressisme. Et c'est à ce moment-là aussi, en 1851, que se montrent les premières expositions universelles. Donc ça, c'est destiné à magnifier à la fois l'industrie et à la fois la science, le mode de connaissance scientifique et ses applications techniques. Et qui monte ça ? Ben, ce sont les États, essentiellement. Donc il se produit vraiment un phénomène nouveau. Et en même temps, il y a une classe ouvrière qui se constitue, bien évidemment. Bon, il suffit de lire, par exemple, les rapports de Villermet, auxquels l'Académie des sciences morales et politiques commande des rapports dans toute la France sur les industries textiles, du coton, du lin et de la soie, en 1836. Et dans ces rapports, il décrit la condition ouvrière partout où il s'est promené, à Montpellier, du côté de Lyon, du côté de Belfort, du côté de Lille, du côté de Rouen. Il décrit la condition ouvrière parce que ça pose problème. Dès cette époque-là, ça pose problème. Le 19e siècle, c'est capital. C'est capital. En même temps que tout ça se met en place, il y a une grande angoisse qui commence à naître. Pourquoi ? Parce que à la périphérie des villes et même à l'intérieur des villes, il commence à se constituer une classe de prolétaires. Mais une classe de prolétaires dans des conditions mais terribles, inimaginables. Je veux dire, inimaginables du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la salubrité, du point de vue de ravitaillement en eau, etc., etc., quoi. Et ça devient visible. C'est un phénomène qui devient visible puisque c'est au cœur des villes. Et donc là, il monte une grande angoisse, qui est l'angoisse de la classe bourgeoise qui, en même temps, elle n'a pas encore trop structuré son récit pour légitimer sa prise de pouvoir politique. Et donc, il y a une grande angoisse devant ce qu'elle voit, c'est-à-dire la misère ouvrière. Et ça, bien évidemment, le marxisme classique, il en parle, bien sûr, mais... Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, comme c'est en même temps la naissance de la biologie, et surtout que le mode de connaissance commence à être le seul mode valide et légitime de penser. Là, je fais un raccourci, mais ultra rapide. Ce qui se passe, c'est que très rapidement, grâce aussi au darwinisme, et là, bon, il y aurait énormément à dire, énormément à dire, donc je vais pas entrer dans ce domaine-là, mais essentiellement, grâce au darwinisme au pluriel, puis ensuite, avec les propagateurs du darwinisme en Allemagne et en Angleterre, puis aux États-Unis, cette grande angoisse existentielle devant ce qui se produit dans les villes, au cœur des villes, eh bien, elle prend deux visages. C'est d'une part la peur des classes laborieuses qui deviennent des classes dangereuses, ça c'est un classique en histoire, mais en même temps, ce qui ne fait pas partie de l'historiographie classique, c'est que ces classes-là, qui sont taxées de classes dangereuses, sont aussi taxées de classes dangereuses en vertu du fait que, à travers ce nouvel esprit scientifique, une grande angoisse de la dégénérescence du peuple ou de la race se produit. Il y a une grande angoisse de la dégénérescence qui est raccrochée à la biologie et au darwinisme qui sont en train de prendre une place importante sur le devant de la scène. Et donc, se met rapidement en place l'origine des espèces, etc., de Darwin, c'est 1859. Et quelques années après, Galton et Spencer et d'autres vont déplacer cette biologie du côté de la sociologie et de la politique et dire, en fait, la race est en danger, la race blanche, la nation, etc., est en danger. Et pourquoi ? Parce que c'est tous ces pauvres et ces miséreux, en les aidant, on ne favorise pas la sélection qui, dans une situation normale, sociétale normale, ces pauvres sont les plus faibles, donc ils sont éliminés. C'est la base du raisonnement que d'ailleurs Darwin a piqué chez Malthus. Bon, ça c'est André Pichot qui le montre. De mon point de vue, André Pichot c'est une lecture fondamentale. Il a écrit plusieurs livres là-dessus, j'en ai amené qu'un seul. Donc, il y a une charnière qui se met en place. 1850, il y a une charnière donc dans l'historiographie du capitalisme. Et parallèlement à ça, il y a un mouvement eugéniste qui va en retour justifier une économie politique naissante. Et dire, ben, certains vont même jusqu'au bout en disant, bon, il faut supprimer toutes les aides sociales aux pauvres, parce que si on aide les plus faibles, la société va dégénérer, puisque les pauvres vont pouvoir se reproduire. Alors, au passage, c'est toujours étonnant quand on lit ça, mais de faire la liaison à ce qu'on peut entendre un siècle et demi plus tard. Donc, à partir de ces constatations, j'en suis venu à me dire les choses suivantes. C'est pas seulement une biopolitique qui se met en place, comme a pu le dire Foucault. Si on en reste là, on n'a pas vu l'essentiel. Il y a, à travers ce qu'on peut l'appeler biopolitique, cet eugénisme, ce qui se met en place, c'est en fait le règne du mode de connaissance scientifique, c'est-à-dire le règne de la rationalité calculatrice. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, pour différentes raisons, et notamment parce que les applications scientifiques vont démontrer leur puissance, à la fois dans le capitalisme, mais aussi dans la vie quotidienne. Je veux dire, bon, la puissance, c'est, dès le départ, c'est le chemin de fer, par exemple, ou après, ça va être le bateau à vapeur, ou ça va être le télégraphe qui va permettre d'échanger en quelques heures, alors qu'entre l'Angleterre et l'Inde, il fallait 3 semaines, ou plus que ça, bon, en 2 heures, les choses se transmettent, quoi. Donc, il y a un effet de toute puissance, là, qui va avec ce mode de connaissance scientifique. Et en rester à cette description biopolitique, ça dédouane en quelque sorte ce qui vient étayer cette biopolitique. C'est le mode de connaissance scientifique en tant que tel, le mode de connaissance scientifique est une machine à désubjectiver, à éradiquer le sujet. C'est-à-dire que dès le départ, si on prend par exemple Galilée, il formule un certain nombre d'axiomes et de postulats, duquel il apparaît clairement que si on veut être légitime et si on veut être scientifique, il faut être objectif. C'est-à-dire que toute subjectivité doit être évacuée. Et cette question de l'éradication du sujet, je soutiens, mais bon, il n'est pas possible de le démontrer dans ce cadre-là, mais je soutiens que c'est intrinsèque à la démarche, je dis bien intrinsèque à la démarche ou au mode de connaissance scientifique. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, même dans les milieux écologiques, etc., la mode, c'est de parler de l'autonomie de la technique et des méfaits de la technique. Bien sûr que ça existe, cette autonomie et ces méfaits de la technique. Mais pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de gens parlent des téléphones portables ou d'autres applications sans savoir que derrière ces applications techniques, il y a des savoirs scientifiques sans lesquels ça n'aurait pas pu exister. Le cas le plus clair, c'est le nucléaire. Le nucléaire, je l'appelle le fils aîné de la science du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que le nucléaire n'aurait pas pu exister à la fois sans la relativité, E égale mc2, et sans la physique des particules. Donc, les deux champs scientifiques les plus importants du XXe siècle. Et en plus, il a porté ces champs scientifiques au summum de leur puissance, au zénith de leur puissance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas seulement biopolitique, oui, mais ça en reste un niveau descriptif. Ce qu'il y a derrière ça, et ce qui a légitimé cette biopolitique, c'est le mode de connaissance scientifique dans son alliance avec le capitalisme, évidemment, et avec l'État-nation moderne. Je parle pas du colonialisme, mais du rôle que ça a pu jouer dans la désignation des autres à éradiquer. Puis, il ne faut pas non plus en rester là. C'est que derrière le mode de connaissance scientifique, en fait, ce qui est en jeu, c'est la question des tabous fondateurs de toute société, de toute culture et de toute civilisation. Je veux parler du tabou du meurtre et du tabou de l'inceste. Ça, c'est les acquis de la psychanalyse et de l'anthropologie. Je ne vous apprends rien. La science, en tant que mode de connaissance, est intrinsèquement transgressive. Dire, c'est parce qu'elle est transgressive qu'on a pu mettre en cause la vie même, c'est-à-dire dire à un certain moment donné, ces individus sont des individus qu'il faut éliminer. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'arguments différents qui ont été développés suivant les époques, mais ça revient toujours à ça. Et ce qui vient étayer ça, c'est que vous le voyez bien, malgré tous les comités d'éthique nationaux qui existent depuis plus de 30 ans, il sera, sur les bases actuelles, je veux dire, il sera jamais possible d'arrêter ce qu'on appelle la marche des sciences. Jamais. C'est pour ça que Testard a démissionné. C'est-à-dire, le transhumanisme et le clonage, si on n'arrive pas à l'arrêter, c'est inscrit dans cet ordre-là. C'est-à-dire, en tant que tel, il y a, pour ce mode de connaissance-là, il est fondamentalement transgressif. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où les bases de toute société, de toute civilisation, de toute culture sont remises en cause, et en plus avec la légitimation de quelque chose qui vient d'apparaître, qui est le mode de connaissance scientifique et qui vient d'être légitimé par ses applications industrielles, etc., 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 à partir de ce moment-là, les portes sont ouvertes. Et dès 1900, et à peu près 30 ans avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, ça c'est une autre question encore, mais 30 ans avant l'arrivée du nazisme, il y a déjà des lois eugénistes aux États-Unis qui sont votées dès 1907. Il y a déjà, dans le génocide des Herero et des Nama en Namibie, des camps de concentration qui sont installés, dans lesquels on marque au fer rouge les individus des lettres GH, et dont on envoie les crânes pour des mesures craniométriques à Berlin. Mais cet eugénisme n'est pas l'apanage de l'Allemagne, je m'empresse de le dire. Il est avant tout un mouvement de masse aux États-Unis. Il est né en Angleterre, mais ça se développe surtout aux États-Unis. Et après, ça gagne la Suisse, l'Allemagne et l'Europe du Nord. Et la Suède. Les dernières lois eugénistes en Suède ont été abrogées en 1972. Bon. Donc, si vous voulez, à partir du moment où ce qui fonde notre vie, ce qui fonde notre vie ensemble, et transgresser, il y a des choses qui vont se passer. Et notamment, sur une grande échelle, ce qui inaugure encore autre chose, ce que moi j'appelle un changement du statut de la mort en Occident, c'est la guerre de 14-18, et plus exactement, comme dirait Eric Hobsbawm, la guerre de 30 ans, entre 1914 et 1945. C'est-à-dire que dans la guerre, par exemple, de 14-18, c'est la première guerre totale, industrielle, et dans laquelle, les soldats sont à la fois les producteurs de la mort et les produits de cette mort. Et ça se fait de manière industrielle et sur grande échelle, etc., etc. Bon, là-dessus, Audouin Roseau a écrit des livres assez intéressants. Il n'est pas le seul, mais il explique notamment aussi, pendant cette guerre, ce que ça signifie. Comme c'est en majorité des jeunes générations, quand les jeunes meurent, par exemple, avant les parents, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit ce qu'on appelle en psychanalyse une aversion de l'ordre des générations. C'est-à-dire que les enfants partent avant les parents. Et ça, d'une part, c'est le deuil le plus impossible à faire pour l'humanité. C'est aussi pour ça que Durkheim meurt. Il n'arrive pas à supporter la mort de son propre fils. Et il n'est pas le seul. Cette inversion de l'ordre des générations, ça fait partie de ce qui fonde aussi toute société humaine. Et je ne parle pas de ce qui se produit quand on ne peut même pas faire le deuil de ceux qui sont morts à une telle échelle. Je ne parle pas non plus aussi du fait que c'est la période où on demande aux paysans d'aller, qui sont massivement enrôlés dans les armées par le service militaire et par la mobilisation, on leur demande de défendre la terre de leurs ancêtres, de la patrie, les pieds dans les tranchées, et d'y mourir. Je ne parle pas non plus aussi de toute cette jeunesse qui va partir, on le sait très bien, la fleur au fusil, avec aussi, c'est aussi le moment où il y a ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire où la famille se rétrécit aux parents et aux enfants. Et ce qui se passe comme phénomène, c'est qu'il y a une délégation, quelque chose de nouvel, c'est une délégation dans ce qu'on appelle la famille nucléaire, une délégation des désirs des parents sur leurs enfants dans la République, dans la modernité, etc. Faire en sorte que leurs enfants réalisent le mieux-être, le mieux vivre, une meilleure vie, une meilleure position sociale, etc., etc. Et c'est aussi quelque chose d'une injonction presque paradoxale, c'est-à-dire que ces enfants-là, qui sont porteurs des désirs de leurs parents, vont mourir au nom de cette même modernité. Au front, ce qui les fait mourir, ce sont les obus, ce sont les gaz, ce sont les mitrailleuses, l'artillerie, c'est les lance-flammes, et c'est de toutes les inventions, soit qui sont nées en 14-18, soit qui se perfectionnent en 14-18. Et là, il y a entre 14 et 45, pour le coup, il y a quelque chose que Philippe Ariès pointe, c'est-à-dire qu'il y a un bouleversement du statut de la mort en Occident. Parce que c'est à une telle échelle et c'est à une telle profondeur et ça remue tellement de choses fondamentaux dans les racines même de toute société qu'il y a quelque chose qui se produit. Ensuite, ce sont pour moi les ingrédients de ce qui va se produire après. C'est-à-dire, on comprend bien qu'à partir du moment où... il y a un sociologue qui écrit une phrase magnifique. Il écrit en 1910... Jacques Novico, ses dates sont 1849 et 1912. Donc il écrit en 1910, « Le darwinisme social peut être défini comme la doctrine qui considère l'homicide collectif comme le moteur du progrès du genre humain. » Donc, si vous voulez, quand on prononce cette phrase, on se dit « Mais il y a un bouleversement terrible, quoi. » Donc, c'est pour ça, je ne rentrerai pas là non plus dans les détails, c'est pour ça que je soutiens que Auschwitz n'a pas été complètement compris jusqu'à présent. Parce que, pour comprendre ça, il faut soulever les secrets de famille de l'Occident. Les secrets de famille de l'Occident, c'est justement que, un, le mode de connaissance scientifique est par essence transgressif, que deux, ce qu'on pourrait appeler la Sainte Alliance qui s'est produite entre 1850, entre le mode de connaissance scientifique, le capitalisme et les États-nations modernes, ça a engendré une dynamique qui, avec l'eugénisme, a érigé en politique l'élimination d'une certaine partie de l'humanité. Ça voudrait dire aussi, en détail, que les biologistes aujourd'hui reconnaissent ça. Or, par exemple, André Pichot montre très bien qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, Rostand a eu des positions eugénistes dans les années 30, mais ça, il ne faut pas en parler, quoi. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont encore des objets chauds et à propos desquels il n'est pas admis facilement qu'on puisse en parler. Pareil pour le statut de la mort bouleversé avec ces guerres industrielles totales. C'est Ariès le dit en toutes lettres. Donc, à travers ça... C'est ce à quoi je voulais arriver, c'est-à-dire on a encore du pain sur la planche et une réflexion à faire. Quand, par exemple, Lévinas dit « c'est repris à loisir dans toutes sortes d'émissions de colloques, etc. », quand Lévinas dit « mais il est étonnant que le nazisme soit arrivé dans un pays de haute culture comme l'Allemagne qui avait porté au premier plan la valeur de l'être humain ». Mais en fait, c'est vrai qu'il y a, bien sûr, qu'il y a une culture importante en Allemagne, il y a des cultures les plus importantes de l'Occident. Mais en même temps, il y avait ça qui se produisait. C'était des phénomènes de masse. 60% des médecins étaient nazis, quoi. Et ça, on ne peut pas l'expliquer. Et tout ce qui se met en place, c'est 30 ans avant l'arrivée d'Hitler. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui court aujourd'hui, y compris au niveau philosophique, par exemple à travers les citations classiques de Lévinas, masque tout ça et masque les vraies raisons qui sont en fait cette question de l'intrication d'un capitalisme dont je ne parle pas parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup mieux placées ici que moi pour en parler, du caractère mortifère dont la marchandise est porteuse. Et pour moi, l'image condensée de ça aujourd'hui, c'est la question nucléaire. Mais bon, là aussi, je préfère laisser ça au débat.